Il est 23h46 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin et vous pouvez bien évidemment appeler le 39-21. On accueille Rosa maintenant au 39-21. Bonsoir Rosa.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde.
Rosa, visiblement nous nous sommes déjà parlé.
Oui, tout à fait. Ouais.
Vous pouvez me remémorer un peu dans quelles circonstances nous avons échangé ?
Eh bien, il y a plus de 2 ans, et mon mari et moi, nous vous avons contacté pour notre fils, qui était un jeune adulte à l'époque, enfin, il est toujours un jeune adulte, puisqu'aujourd'hui, il a 22 ans.
Parlez bien dans votre téléphone, Rosa.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Donc, on vous a interpellé il y a 2 ans.
Oui.
Notre fils, aujourd'hui, il a 22 ans. Et donc, il y a 2 ans, on vous avait appelé puisqu'on ne comprenait pas trop son comportement. Il avait un comportement tout à fait étrange. On avait pensé à une adolescence tardive due à ses comportements d'opposition, de violence et de repli. Et puis, ça nous a fait énormément de bien d'avoir échangé avec vous puisque, bon, il y a des auditeurs qui nous avaient mis sur la piste. On avait déjà consulté dans un premier temps avant quand vous y êtes appelé. Il avait été même hospitalisé aussi, contraint et forcé, on va dire, puisqu'il il déprimait énormément et puis il avait des crises d'angoisse et puis de violence. Et à l'époque, quand il avait été hospitalisé, il n'y avait pas eu de. Comment les médecins ne nous ont pas dit, ils n'ont pas posé de diagnostic.
Oui, oui.
Et à l'époque, c'est vrai que on savait bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais on ne savait pas et de quel ordre c'était quoi. Et donc on avait échangé avec vous. Ça nous a fait, oui, effectivement, du bien, on va dire, mais on n'était pas, comment dirais-je, conscient. De la problématique, je dirais, et on est loin de, et même aujourd'hui, de voir vraiment, toute la problématique, la complexité, de la maladie d'une part, et puis on était loin de savoir qu'on était vraiment tout seul, quoi. Aujourd'hui, en fait, je souhaiterais vraiment témoigner par rapport à mon fils Marceau, de voir comment sa maladie a évolué. Mais ce que j'attends aussi, ce que j'aimerais, c'est éventuellement de savoir s'il y a des personnes qui, dans leur entourage, qui ont été confrontées à cette problématique. Est-ce que cette maladie, elle a évolué dans le,
alors,
en
il faudrait
bien
que,
ou en mal.
Il faudrait que vous nous décriviez, Rosa, bien cette maladie, parce que vous nous avez dit qu'il était dans l'opposition. Mais à part cela, reprécisez-moi un peu et n'oubliez pas de bien parler dans votre combiné, s'il vous plaît, parce que c'est un peu nasillard.
Tout à fait.
Voilà, comme ça, comme ça, voilà.
Oui, en fait, notre fils, on a su, ça fait donc depuis l'âge de ses 18 ans, on sait bien qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas, on ne savait pas quoi. Et il a été donc hospitalisé une première fois, il avait 19 ans. Le médecin nous a dit, le médecin psychiatre avait dit que voilà, il déprimait en effet, il prenait un peu de cannabis, donc il fallait qu'il arrête. Enfin voilà, il avait été hospitalisé au printemps, on va dire, au mois de mai, par là. Et ensuite, il a été hospitalisé donc 15 jours. Et après, jusqu'au mois d'août, il avait été en hôpital de jour. À la rentrée, il avait repris ses études et il avait arrêté son traitement. Il a été à peine un mois en cours et il comptait revenir à la maison. Mon mari et moi, on lui a dit que c'était pas possible, qu'il fallait qu'il parte de la maison parce que c'était vraiment très difficile. Il y avait une tension à la maison qui était impossible, quoi. Et à ce moment-là, il a fait un Erasmus pour aider des personnes, des réfugiés politiques, des Syriens, entre autres, et bien au Portugal. Et ma foi, on a été le voir. Donc, il était parti au mois de décembre. Et nous avons été le voir au mois d'avril. il semblait bien. En plus, il était bien entouré puisqu'il était avec un jeune estonien. Donc voilà, il était bien. C'est vrai qu'il était souriant. Ça faisait des années qu'on l'avait pas vu sourire. Et oui, bon, il y avait des petites choses qui allaient pas, mais c'était vraiment pas méchant. On le sentait tellement épanoui que tout allait bien. Et puis avec ce garçon avec qui il était bien, il était bien parce que c'était un garçon qui était très calme, très posé, bienveillant. Donc on a été rassurés. Sauf que ce garçon, il est parti au mois de juin et notre fils devait finir son Erasmus au mois de fin août. Et là, le temps qu'il est parti, son ami là, et bien, qu'il est parti donc de son Erasmus, il y a un clash avec l'association. Les gens de l'association qui sont certainement opposés ou qui sont pleins de son comportement un peu nonchalant, qu'il n'avait pas forcément envie de faire beaucoup de choses et tout ça. Et là, il est rentré en France d'urgence. Et là, quand il est rentré, là, on a vu que c'était quand même bizarre, hein, dans le sens où il rassassait toujours la même chose, il était... dans la façon qu'il parlait, il était traumatisé, certes, mais aussi très, très en colère. Et il avait du mal à redescendre un peu de ça.
Oui.
Et bon, le temps, il a passé, on va dire, parce qu'il est rentré au mois d'août, il a un peu travaillé, tout ça. Et les choses, elles sont plus ou moins rentrées dans l'ordre. Alors, je dis plus ou moins parce qu'il a beaucoup de mal à se lever, il a énormément de mal à se concentrer, à faire quelque chose jusqu'au bout, enfin voilà. Mais ça a été... Et le Covid est arrivé par là. Et là, donc, je reçois un message via Facebook de son ami, qui est parti en Estonie, et qui me dit, voilà, quelque chose ne semble pas aller bien avec mon ami. Il est bizarre, il dit des choses très bizarres, pas forcément sensées. Il fait un complexe par rapport à sa taille, alors qu'il fait 1m77. Il pense qu'il est petit et il commence à faire toute une étude de population par rapport au signe astrologique et tout. Et là, je dis à mon mari, il y a quelque chose effectivement qui ne va pas. Je sentais bien qu'il n'arrêtait pas de nous en parler de son signe astrologique, pourquoi il était né au mois de...
Parlez bien dans votre combiné, excusez-moi.
À ce moment-là.
Voilà.
Oui.
Parlez bien dans votre téléphone,
oui.
S'il vous plaît.
Oui.
Est-ce qu'il fumait du cannabis là, à cette époque-là?
Alors, au Portugal, quand il était parti, non. Quand il est revenu, non. Pas plus que ça. C'est vraiment, je dirais, il a fait une séance de sport. Il s'est fait très, très, très mal. Et c'est là où ça a vraiment accéléré les choses, on va dire. Et puis, c'est devenu... Peut-être qu'il avait certainement refumé, oui. Mais il a rassassé les choses du passé. Mais en tout cas, cette blessure qu'il a eue a déclenché chez lui, un mal-être et puis son comportement très très bizarre quoi, très bizarre. Et de ce fait, moi j'ai appelé donc l'hôpital psychiatrique et là, je suis tombée sur une psychiatre qui était de garde et elle m'a dit il faut réhospitaliser votre fils. Il est en train de faire un deuxième délire et en fait, ça va aller en crescendo et il faut absolument qu'il ait un traitement.
Oui.
Et donc, on l'a réhospitalisé de nouveau et ça a été de nouveau un traumatisme très fort, aussi bien pour lui que pour nous, parce que c'est vraiment très difficile. Hein. Il y a le SAMU qui arrive, bien entendu, mais après, il y a gendarmerie, tout ça, enfin voilà... On amène quelqu'un de force dans une camisole. Enfin, c'est vraiment... c'est dur, quoi.
Oui, c'est violent.
C'est très, très dur, quoi. Et c'est là où, en fait, où on a commencé à prendre vraiment... on s'est rendu compte de la maladie ou de l'ampleur de la chose, mais c'est là où on a été confronté, à la psychiatrie. Et là, c'est désespérant. C'est une honte d'être dans un pays comme la France. Et que nous, les parents, on soit délaissés comme ça. Et les parents et puis les personnes qui sont concernées par ces maladies-là, parce qu'ils sont dans le déni complètement. Et donc voilà quoi. Et en fait, moi j'ai sollicité l'hôpital psychiatrique pour qu'on puisse rencontrer donc le psychiatre, qui a été très vague, donc qui nous a dit voilà votre fils souffre d'une psychose.
Est-ce que bon, parce que beaucoup d'auditeurs se demandent ce qu'il avait, donc on a été incapable de vous le dire, en fait, visiblement.
Oui, tout à fait.
On ne vous a pas parlé de, d'épisodes délirants
Oui, il a dit effectivement qu'il avait fait un épisode de paranoïa et qu'il avait une psychose.
D'accord.
De type, voilà.
On ne vous a pas parlé de schizophrénie,
Non, alors, je vais vous expliquer. Je vais en arriver là, mais non, pas du tout. D'accord. En tout cas, pas pour le moment, avec ce psychiatre-là. Donc, nous voilà repartis avec notre fils à la maison, un traitement. Et là, donc, ça, c'était au mois de, d'avril, mai. Et donc, de l'année dernière, hein, et donc, jusqu'à la fin août, puisqu'il reprenait ses études donc, en Touraine, donc à une centaine de kilomètres de chez nous, il a vu le psychiatre en tout et pour tout, trois fois. Donc, la dernière fois qu'on l'avait rencontré, puisqu'on avait demandé, on avait vraiment beaucoup insisté à ce qu'on puisse de temps en temps faire le point, parce que nous, on vivait à la maison avec notre fils, on ne savait pas comment réagir, agir, comprendre, enfin, comment faire, parce que on n'est pas professionnels, nous, dans ce domaine-là. On est agressés et c'est vraiment difficile, quelque part, de trouver des réponses, une attitude adaptée. On avait besoin d'un accompagnement.
Parlez bien dans votre téléphone. Je suis désolé hein, de vous...
Oui.
Voilà, comme ça. Essayez de vous concentrer sur cette position, s'il vous plaît, parce que ça devient de plus en plus aigu et c'est compliqué de vous entendre. Voilà.
Donc, nous avons demandé, effectivement, à avoir un... d'être accompagné, d'avoir
un diagnostic.
Et un diagnostic, mais qui a été vague. Voilà. La dernière fois que nous avons eu rendez-vous avec ce même psychiatre, et le rendez-vous, il était posé, il était pris, et bien, il nous reçoit. La première chose, avant même de nous dire bonjour, il nous dit : j'ai pas beaucoup de temps à vous accorder, j'espère qu'on va pas prendre trop longtemps, en fait. Voilà. Donc, concrètement, mon mari et moi, on avait l'impression d'halluciner, quoi. On se dit que finalement, ce psychiatre-là, mais c'est pas possible. Ils sont loin d'imaginer ce que c'est cette maladie, ou ils n'ont pas de près des personnes touchées par cette maladie, parce que sinon, c'est pas possible qu'un médecin puisse avoir un discours pareil, quand même.
Vous parlez de cette maladie, donc est-ce qu'on a fini par vous dire quelle était?
Alors, donc, à ce moment-là, donc, notre fils, au mois d'août, il a arrêté de le voir. Et comme il a changé de département, il nous a dit, voilà, on va transférer son dossier en Touraine. Et là-bas, il aura la possibilité de voir un psychiatre et d'être suivi. Puisque là, ça ne va pas être facile pour trouver, d'avoir des rendez-vous. Puisqu'il va être en cours.
Alors, dans un premier temps, on peut dire donc que vous étiez totalement dans le brouillard, hein, ma pauvre Rosa, puisque personne ne vous a donné de diagnostic. On va marquer une pause, on va laisser l'info passer sur Europe 1, et puis vous allez nous expliquer dans la deuxième partie si on vous a donné enfin un diagnostic. À tout de suite, Rosa.
Oui.
Nous sommes avec Rosa qui nous parle de ses déboires hein, avec son fils qui n'est pas arrivé à être diagnostiqué dans un premier temps. On en était, Rosa, donc à ce changement de région. Est-ce que ça s'est amélioré une fois arrivé en Touraine ?
Eh bien, en fait, il avait commencé en septembre et il a fait 3 mois en Touraine. Ses études, il n'a pas pu aller au-delà puisqu'il avait beaucoup de mal à s'intégrer. De toute façon, il y avait le Covid, donc du coup, les cours étaient pris à distance.
Oui.
Et il a complètement décroché. Et en 3 mois, j'ai sollicité le CHU assez régulièrement hein, pour qu'il ait un rendez-vous. Et la liste était tellement énorme qu'en fait, il est revenu à la maison et il n'avait toujours pas de rendez-vous. Donc, plus de rendez-vous, plus de médecin psychiatre. Donc, là, en ce moment-là, quand j'appelle donc en Touraine pour dire, voilà, il revient donc dans la Sarthe, notre fils, et il va falloir que eh bien, vous remettiez le dossier éventuellement là où... à l'hôpital où il était, puisque bah, il va en dépendre de là où peut-être d'un autre psychiatre. Eh bien là, il n'y avait plus de secret professionnel ou quoi. Là, on m'a transmis son dossier, vous voyez, par mail. Hein. Donc, quand on veut, on a des secrets professionnels de polychinelle, je dirais, parce que nous sommes ses parents, on nous veut du bien à notre enfant. Et on a besoin de comprendre, et donc on vous cache des choses, et ça devient, je dirais, une espèce de... Il y a qu'en France qui a aussi, enfin pas qu'en France, mais en tout cas pour un pays comme la France, qu'on exclut les parents, qu'on a peur de mettre des mots, parce que des mots et un diagnostic, pour qu'on puisse comprendre, même pour le malade, parce que si le malade, à un moment donné, on ne pose pas de diagnostic, comment veut-il, comment peut-on prétendre que cette personne, elle va prendre conscience qu'elle est malade, et qu'elle peut éventuellement avoir une démarche d'acceptation de la maladie.
Mais sans diagnostic, c'est impossible, vous avez raison. C'est fou, cette histoire.
Oui, et donc, donc nous avons pris contact. Donc heureusement que, je me suis rapprochée, de l'INAFAM. Lorsque nous avons échangé, la première fois avec vous, c'est ce que vous m'avez conseillé. Et donc, c'est plus à ce moment-là, fin d'année dernière, j'ai pris contact avec une femme et qui m'ont soutenu, qui m'ont éventuellement, effectivement, aussi compris, aidé. Et bon, eux aussi sont venus, hein. Concrètement, si on n'est pas confronté à la maladie psychiatrique telle que, qu'on peut l'entendre, parce que un état psychologique déprime, c'est une chose. Une maladie psychiatrique, ça n'est qu'une autre. Et c'est une maladie comme toute maladie. Je dirais que, par exemple, demain, monsieur, madame, n'importe qui va à un endroit et quelqu'un vient de tomber et fait un AVC. Que fait-on ? Eh bien, on appelle les pompiers, on est bien d'accord. Les pompiers vont intervenir et cette personne, elle est prise en charge tout de suite parce que sa vie, elle est mise en danger. Donc, on lui prend en charge tout de suite et on l'amène à l'hôpital. Et on lui fait des soins. Dans le cas de la maladie psychiatrique, eh bien non, on ne fait pas de soins. On ne fait pas de soins tout de suite. En fait, déjà, la personne, elle n'est pas d'accord à être hospitalisée. Pourtant, c'est une maladie psychiatrique. Elle est dans le déni, ça fait partie de la maladie. Ah mais non, mais il va falloir la forcer. Et pour la forcer, il va falloir que la famille signe un papier comme quoi vous avez hospitalisé votre proche. Et voilà. Et ça, c'est culpabilisant. C'est vraiment très difficile. Et en plus, on vous abandonne. En plus, on vous abandonne, on vous donne pas de moyens, on vous donne pas d'outils, d'accompagnement pour vous ou pour le malade. Et ça, c'est une injustice. Je suis révoltée. On est vraiment, nous, mon mari et moi, suite à ça, parce que c'est quand même une vraie galère, donc pour vous dire, en fait, notre fils, il a eu un vrai diagnostic. Il a eu un vrai diagnostic il y a 2 mois. 2 mois de cela.
Et quel était-il alors, ce diagnostic ?
Eh bien, en fait, notre fils, il s'est en effet une schizophrénie. Une psychose schizo-affective. Voilà, donc c'est une schizophrénie schizo-affective qui veut dire que c'est un peu de la bipolarité de par son état de déprime, de longue déprime et schizo-affective. Et de l'autre côté, il y a un côté aussi schizophrénique, en fait, voilà. Repli sur soi, voilà. Et là où c'est compliqué, c'est que il est accro au cannabis. Il est tout le temps allé il ne voit des copains que pour aller acheter du cannabis, 10 euros, 20 euros, voilà.
Extrêmement mauvais.
Mais oui, mais bien sûr, mais on le voit, de toute façon, sa maladie, elle a évolué, dans le sens où là, des fois, il est dans son monde, chose qu'il était déjà auparavant, mais en plus, des fois, on le voit bien, il a des limites, il rigole tout seul, enfin voilà. Et on ne sait pas comment la maladie va évoluer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été confrontés à ça, comment elle va évoluer. Et est-ce qu'il y a un espoir, effectivement ? Nous, on a rencontré donc son psychiatre, qu'au départ, c'est un jeune psychiatre, qui était un peu réticent. Donc moi, je lui ai fait un mail, parce qu'au départ, donc, il nous a dit pour qu'il puisse puisse être pris en charge, il faut que ce soit lui qui nous envoie une demande de rendez-vous. Donc, j'ai quand même beaucoup motivé notre fils à faire la demande.
Parce qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas.
Ben, il voulait sans plus. C'était pas, oui, puis il remet toujours au lendemain. Puis oui, mais on va voir demain. Puis demain, c'est pas le moment. Puis après-demain, c'est pas le moment. Et puis voilà, et puis une semaine, 15 jours, des mois se passent, et puis il n'y a rien qui se passe. Et nous, on vit avec ça. Et c'est trop pénible, quoi.
Donc
il est vraiment motivé.
Il a quel âge maintenant, en fait, Rosa ?
22 ans, il a.
Il a 22 ans. Et donc, là, je suppose que les études, c'est totalement remis en question.
Ah oui. Oui, alors il a entamé une formation qu'il a été plus ou moins, une formation adulte, dans le cadre de la mission locale. Là, il refait une autre formation. Mais le matin, c'est juste impossible. Il a du mal à se réveiller. Moi, j'ai un travail où je pars très tôt le matin. Et je suis aussi beaucoup en déplacement. Heureusement que mon mari, il a des horaires un peu plus fixes. Mais donc là, actuellement, il commence à 9h. Donc, à 8h30, donc nous sommes à 20 minutes du lieu, il est toujours au lit. Oui, je me lève. Et à la fin, il hurle dessus. Oui, mais j'ai compris, je vais me réveiller. Il se met dans tous ses états. Et en fait, il est réveillé, mais il a du mal à se lever. Et je vois bien que c'est plus fort. Enfin, c'est au-delà de son effort, je comprends. Mais nous, tout seuls devant cette montagne de problématiques, de Le dialogue, en fait, il dit et comme si vous disiez oui, mais en fait, il n'entend pas,
Est-ce qu'il prend un traitement, au moins ? Est-ce qu'il accepte de prendre un traitement ?
Oui, il accepte de prendre un traitement. Il n'est pas forcément toujours régulier dans son traitement, c'est-à-dire qu'il y a des semaines, il va le prendre. Là, je pense qu'il est en pleine crise en ce moment. Parce que, alors, quand il est en pleine crise, il a un côté un peu plus... puisque la psychose schizo-affective, elle a et un peu de bipolarité et un peu de schizophrénie. Et donc, il est dans une période un peu plus bipolaire, on va dire, dans le sens où il entame d'aller voir Pierre, Paul, Jacques, ses copains, ceci, cela. Il est un peu euphorique vis-à-vis de ses copains, tout ça,
oui.
Et puis d'aller fumer, voilà, ça le calme. Et donc, à ces moments-là, donc comme la semaine dernière, il a pris toute la semaine, il a dû prendre 2 ou 3 fois le traitement, c'est tout. Voilà. Et donc, effectivement, le médecin lui a proposé une injection. Il ne veut pas d'injection. Donc, le psychiatre, quand nous lui avons rencontré, il nous a dit, écoutez, il a été très bien, hein, le psychiatre, c'est un jeune psychiatre, en plus, je trouve que c'est pas, entre guillemets, la même école, c'est des gens qui sont, enfin, je lui avais fait aussi un mail très détaillé, quand même, de sa pathologie, hein, de ce qu'il avait, de l'historique, comment ça avait commencé, comment ça avait évolué, tout ça. Il nous a rencontrés, mais au départ, il n'était pas très partant quand même pour nous rencontrer. J'ai quand même beaucoup insisté en disant, écoutez, nous vivons avec lui, il est chez nous, nous avons besoin de comprendre ce qu'il a et d'avoir des réponses aussi, quoi, parce qu'on n'est pas des professionnels, nous, hein. Notre métier n'est pas en psychiatrie quand même. Et à la fin, en fait, on a fini par lui dire, mais c'est nous qui allons finir en psychiatrie, quoi, parce qu'on ne va pas tenir. C'est beaucoup trop dur en termes de prise en charge. Il n'y a rien qui se fait pour ces jeunes-là.
Ah
quoi.
Oui,
alors on est tout seul au monde. Et vous savez, il y a des drames qui arrivent dans des familles. Mais, ça peut aller très vite quand même. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite parce que un moment de violence, il y a des choses qui peuvent se passer quand même. Des choses graves. Et on est laissé tout seul, quoi. Et je me dis, mais c'est impensable. Comment il n'y a pas de prise en charge pour ces jeunes-là, autre que l'hôpital psychiatrique, parce que l'hôpital psychiatrique, aujourd'hui, n'est pas une réponse parce qu'en fait, on les enferme, on les calme avec des médocs, et puis, il y a des comportements tellement déviants aussi dans ces... Enfin, pas des soignants, hein, mais d'autres malades, enfin, mon fils, il n'avait rien à faire dans l'unité où il était. Là. C'est
pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous
traumatisant.
Dites ça?
Parce qu'il y avait des vrais dangereux, quoi, des gars, mais enfin, des gens qui étaient dans un autre stade déjà de décomposition.
Il y était depuis combien de temps? Il y était depuis combien de temps?
Il y est resté 15 jours, mais d'ailleurs le psychiatre, quand il a été hospitalisé, il lui a dit il faut qu'il les séquelles de l'hospitalisation, enfin il aura plus de séquelles en étant hospitalisé que s'il n'est pas hospitalisé. C'est beaucoup, c'est trop violent.
Oui. Vous
voyez, c'est mais en même temps, nous à la maison, on pouvait rien faire non plus. Quand quelqu'un ne veut pas se soigner, quand quelqu'un est dans le délire, quand
et nous, ah mais non, comment, mais c'est, on n'a pas. C'est l'enfer. C'est l'enfer.
C'est l'enfer.
C'est, oui. C'est l'enfer. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui pour votre fils, pour le stabiliser déjà, et puis pour voir une évolution, hein, que de passer par l'acceptation du traitement. C'est
oui.
Là, alors, vous avez enfin un diagnostic qui est schizophrénie affective, m'avez-vous dit? Alors,
schizo-affective, oui.
C'est la première fois que j'entends parler de schizo-affective.
Mais en fait,
ça veut dire quoi, schizo-affective? Ils définissent ça comment?
Eh bien, c'est comme je vous disais, donc il y a plusieurs psychoses, et dans les psychoses, il y a des schizophrénies, il y a aussi plusieurs stades de schizophrénie, et il y a la schizophrénie, qui est ce qu'on appelle une schizophrénie schizoaffective. Donc elle a et un peu de bipolarité et un peu je vous schématise, hein, mais c'est voilà, et un peu de bipolarité et un peu de schizophrénie, en fait, voilà.
D'accord.
Mais c'est très difficile à prendre en charge.
Et puis on a vu au moment où on se parle, il est dans quel état là?
Ça a beaucoup évolué, en fait.
Il est chez vous ou il est à son appartement?
Non, il est chez nous, mais alors, on voudrait effectivement, nous, mon mari et moi, parce qu'on n'a plus de vie, hein, de toute façon. Et on n'a plus de vie dans le sens où on ne pourrait pas partir en vacances, par exemple.
Oui.
Parce que, déjà, il était capable de se faire à manger. Aujourd'hui, il est incapable de se faire à manger. Il se laisserait complètement aller. Il ne se ferait pas à manger.
Il a des hallucinations.
Il ne le dit pas, mais vu qu'il rigole tout seul dans son monde, oui, je pense que oui. Mais il n'ose pas le dire. Mais on lui a déjà demandé, il dit que non.
Oui, donc vous ne pouvez pas le laisser tout seul par peur qu'il puisse mettre le feu, par exemple.
Ben, alors, pas intentionnellement, mais
oui,
de façon
accidentelle,
oui.
Dans un délire.
Ouais. Mais il n'est pas dans un délire, il n'est pas dans ce délire-là de faire des choses, pour l'instant en tout cas, mais c'est plutôt dans... Il est tellement dans son monde, il est tête en l'air tellement qu'il oublie ce qu'il fait. Avec mon mari, nous sommes absentés un jour parce qu'on devait accompagner mon beau-frère à l'hôpital de façon urgente. Et avant de partir, je lui dis, écoute, il y a de l'eau sur le gaz, c'est pour tes pattes, tu fais attention. Donc il me dit oui. Je répète deux, voire trois fois. Je lui dis, tu as bien entendu ce que je t'ai dit, il y a de l'eau. Il me dit oui. Et puis nous voilà partis. Et je me suis dit, il faut que je le rappelle, j'espère qu'il a pensé à éteindre le gaz, en fait. Et puis, je l'appelle maintes fois, et j'ai fini, mais au bout d'une heure et demie, deux heures, par la voir au téléphone. Et là, je lui dis, est-ce que tu as pensé qu'il y avait de l'eau sur le gaz? Tu as fait tes pas? Il me dit, l'eau sur le gaz, quelle eau? Heureusement que nous venons de changer de cuisine et que nous avons un système extraordinaire, c'est que quand ça déborde, ça s'éteint. Voilà, ça coupe le gaz. Mais sinon, il n'aurait pu, enfin, ça aurait pu mettre le feu, quoi, à la maison. Voilà.
Actuellement, nous, en fait, il prend quand même un petit traitement.
Il prend un petit traitement. Il a du risperidal, 2 mg par jour. Il a du Seresta, 10 mg
par jour. Ça ne nous dira pas grand-chose, ça, Rosa. Mais donc, il a un traitement de comprimé, en fait, qu'il accepte de prendre.
Oui.
Ok.
Ben, qu'il accepte, qu'on le motive fortement, parce que tous les soirs, ça aussi, c'est vraiment pénible pour les parents.
C'est la guerre.
Mais oui, tu penses à prendre tes médicaments? Oui.
Est-ce qu'il avait des copains, en fait? Vous avez déménagé en Touraine, donc je suppose que ça l'a coupé de...
Alors, il avait déménagé en Touraine, lui, pour ses études, où il était dans une colocation. Nous sommes toujours au même endroit. Il est rentré à la maison, donc au bout de trois mois, puisqu'il n'a pas continué ses études, il est revenu. Alors, oui, il a des copains, mais les copains qu'il va voir, c'est simplement des copains, c'est des mauvaises fréquentations, c'est des personnes qui fume du cannabis.
Ouais,
voilà.
C'est dramatique.
Mais même ses copains s'en rendent compte.
C'est dramatique dans son état qu'il ne lève pas le pied sur la consommation de cannabis. C'est,
Mais on lui fait la guerre avec ça.
Et il ne comprend pas ça. Il n'a pas de moment de lucidité où quelqu'un... Parce que, est-ce qu'il voit un psychiatre régulièrement? Parce que Jean nous demande au 739-21 si... il ne pourrait pas être suivi par des équipes pluridisciplinaires en CMP, vous savez, en centre médico-psychologique.
Oui, alors donc, en fait, comme il est adulte, nous, ce que nous avons dit au médecin, on lui a dit, nous, ce qu'on attend de vous, c'est un effet. On sait qu'il n'y aura pas de miracle. De toute façon, notre fils n'est plus le même, il ne sera plus jamais le même. Et on le sait, on en a conscience.
Nous,
ce qu'on attend, c'est qu'en fait, il y ait une bonne prise en charge. Qu'est-ce qu'on entend par bonne prise en charge? C'est-à-dire que nous n'allons pas vivre toute notre vie comme ça, parce que c'est nous, comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, qui allons finir en psychiatrie. On ne va pas tenir le coup.
Mais non, c'est très, c'est
armé pour ça.
Et un temps pour vous.
Voilà. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'en effet, il y ait un dossier, parce qu'en fait, même ça, il n'a pas de dossier de reconnaissance, parce qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance de son handicap, et que suite à ça, eh bien, il y a une prise en charge vers l'autonomie dans un centre ou dans un appartement en semi-autonomie, mis en place pour qu'un jour il ait un minimum de vie, parce que sa vie c'est la chambre, d'aller fumer et c'est tout quoi. C'est quand même dramatique.
Non, mais ce qui est certain, c'est que la maladie l'a encerclé, a pris place. Et que le pauvre, il ne se rend pas compte, malheureusement pour lui. Mais la question que je me pose quand je vous écoute, c'est lorsqu'on a un enfant comme ça qui est adulte, donc majeur, mais qui souffre d'une maladie psychique qui le rend irresponsable. Vous voyez, j'entends par là qu'il n'est pas capable de percevoir la gravité et de ses actes, fumer par exemple, et l'état dans lequel il est. Or, j'ai l'impression que vous n'êtes toujours pas entendu par la médecine, par vous faites allusion au fait qu'il soit adulte, mais on devrait vous entendre complètement à 200%, vos parents. Ça n'est pas le cas?
Mais oui, mais non, mais parce que la loi en France, et c'est ça en fait... ils vont nous entendre si on l'hospitalise de force, s'il se met en danger, qui nous met en danger. Le SAMU arrive, la gendarmerie arrive, la camisole, la piqûre, boum boum, on l'hospitalise. Là, on va l'entendre. Mais on va l'hospitaliser pour une semaine, 15 jours, 3 semaines. Oui, mais en fait, comme c'est un lieu qui est de transition, mais à un moment donné, on vous le remet chez vous. Et donc, c'est-à-dire, mais vous savez, concrètement, c'est grave ce que je dis.
Mais
là,
bien évidemment, puisque vous êtes en train de me dire que votre fils, qui est incapable de faire des démarches, donc est au point mort, et que vous, on ne vous laisse pas.
Mais des fois, j'ai envie de divorcer de mon fils. Enfin, vous comprenez ce que
je
veux dire. Des fois, j'ai
je comprends. Vous êtes fatigué.
Mon mari et moi, on n'en peut plus.
Je comprends.
C'est vraiment, d'une lourdeur. C'est pas possible. Et puis même, je me dis. Si la prise en charge elle est pas bonne, il va pas évoluer, enfin il va stagner, il va reculer, parce qu'on a bien vu, il a son permis aujourd'hui, vous voyez, il a toujours eu son permis. Eh bien, on s'inquiète, on se dit mais alors on a réussi à l'amener vers la thérapie familiale.
Reparlez bien dans votre téléphone.
Oui. Là, vous m'entendez mieux?
Oui, c'est bien là.
Donc, comme on voulait qu'il ait un suivi psychologique et qu'il ne voulait pas y aller, donc on lui a dit, écoute, si on y va dans le cadre d'une thérapie familiale, puisque nous avons des choses à dire, toi aussi, c'est le moment, c'est l'espace où on pourra dire des choses. Donc, il a été d'accord pour qu'on aille voir deux psychologues dans le cadre d'une thérapie familiale. Et donc, on y va une fois tous les un mois et demi. C'est très bien, d'ailleurs. Ça se passe très bien. Et on a pu dire des choses, exprimer des choses. Voilà. La dernière fois, ils ont été un peu sport, quand même, parce que notre fils, il s'est fait arrêter avec 3 grammes de cannabis, ce qui n'est pas énorme
non,
en soi.
Non.
Et,
Voilà. Et donc, il a été toute la nuit en garde à vue. Ils lui ont fait un test salivaire qu'ils ont perdu, quelque part. Voilà. Il va passer un jugement le 20 ou le 22 octobre. Là,
pour 3 grammes de cannabis ?
Oui. Et je l'ai eu, le policier au téléphone. Il m'a bien dit que c'est... Parce que je lui ai demandé, je lui ai dit, écoutez, j'ai besoin de savoir. Vous savez, en plus, il a un traitement et tout ça. Enfin, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais il a fait beaucoup de cannabis sur lui. Il m'a dit, non, vous inquiétez pas. Il avait de quoi rouler quelques joints. Mais il avait entre 3 et 4 grammes de cannabis.
Oui, donc voilà. Il va prendre un rappel à la loi et sans doute une injonction thérapeutique, en fait. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je pense qu'il ne risque rien. C'est juste que je vous dis que la justice a encore du temps à perdre pour 3 grammes de cannabis. Mais bon, ça, c'est autre chose.
Non, mais complètement.
Là, par contre, on le juge. Hein,
voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, les psychologues, alors je lui avais déjà dit, hein, que par téléphone, je lui avais dit que j'aimerais bien qu'elle aborde tel ou tel sujet vers l'autonomie. Enfin, voilà. Et donc, je lui en avais parlé par téléphone comme quoi il avait été arrêté. Mais lors de la séance, on ne l'a pas dit vraiment. Sauf à la fin de la séance, mon mari l'a abordé le sujet. Et là, ils disent, oui, vous ne nous en avez pas parlé, c'est extrêmement grave, tout ça, ce qui est vrai, bon, je comprends. Et en fait, une fois de plus, alors j'aime beaucoup les séances et ça m'a vraiment beaucoup apporté, moi, personnellement, déjà d'avoir un espace où parler. Mais une fois de plus, on vous responsabilise, on vous met sur le dos la responsabilité d'une maladie que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas responsable, et de la prise en charge que l'État ne prend pas en charge, ni dans les centres, la prise en charge tout court des schizophrènes, comme il se doit. Eh bien, on vous met encore, vous, les parents, le dos en disant, mais vous êtes responsable si votre fils, il conduit et qu'il a son permis, qu'il vient à créer un accident et qu'il arrive quelque chose, ça sera de votre faute. Oui, on a conscience de ça, parce qu'on le pense, mon mari et moi. Combien de fois on se dit, mais il est dans son monde, un jour s'il crée un accident, et il faudrait lui enlever les clés, mais c'est vraiment difficile, il a sa formation à faire et tout. Une fois de plus, c'est aux parents d'aller, vous voyez, c'est terrible, quoi. Tout nous tombe dessus, vous êtes un peu... quand c'est pour les emmerdes, entre guillemets, c'est sur les parents que ça tombe, mais nous, on n'a aucun accompagnement. On n'a pas de... Voilà.
Mais Jean, au 739-21, vous relance sur... Vous n'avez pas répondu sur le fait qu'il puisse prendre des soins, être en
soins
au CMP, oui. Dans un centre médical psychologique.
Non, parce qu'en... Alors, oui, on aurait tellement voulu, mais ça, c'est... Donc, le psychiatre va faire son dossier donc, pour qu'il soit reconnu dans son handicap. Suite à ça, des choses vont se mettre en place.
Voilà,
mais
ouais.
Pour l'instant, en fait, il n'y a pas de prise en charge. Voilà. En fait, la prise en charge, elle peut se faire qu'au moment où il est hospitalisé et suite à laquelle le psychiatre veut bien évaluer une orientation vers ces centres-là. Mais sachez que moi, j'ai appelé même des cliniques spécialisées un peu dans ces... Voilà. Mais qui sont hors de notre département. Et on nous dit, mais vous savez, madame, on a une vingtaine d'appels par semaine.
Il n'y a pas de place.
Voilà, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Et même aujourd'hui, quand on voit que, bien sûr, le Mans, ils sont 2 ou 3 psychiatres, alors qu'il devrait être 5 ou 6 ou 10, je crois... C'est une honte, c'est pas possible.
Non, mais
on ne met pas les moyens.
En vous écoutant, Rosa, on se rend compte ce soir que lorsque un enfant comme ça, parce que ça reste un enfant, hein, il a 20 ans, c'est votre enfant, 22 ans, souffre d'une maladie psychiatrique, on voit qu'en plus, c'est d'actualité, puisque avec le Covid, il y a une recrudescence de maladies psychologiques, et on voit qu'on n'est pas armé. En France, il y a encore une fois beaucoup de choses à faire au niveau du système de soins pour les maladies psychiques. Et en vous écoutant, c'est l'exemple type d'un enfant, d'un jeune homme qui est un peu, pour l'instant, lâché dans la nature. Et s'il ne vous a pas, cet enfant, et il y en a, hein, des gens qui n'ont pas les moyens et qui lâchent les amarres, hein, qui en ont marre parce que c'est extrêmement fatigant, parce que c'est tout le temps pratiquement. Hein, c'est, vous l'avez dit, votre fils a beaucoup changé. Il a muté vers un autre état. C'est très compliqué. Vous nous tenez au courant, Rosa, surtout, hein, de l'évolution de tout ça.
Ben, en fait, ce que je quand j'entends les informations là que Emmanuel Macron a mis des moyens, mais quels moyens ? 800 personnes, 800 postes supplémentaires. Et mais c'est des pacotis tout ça. Ce n'est pas des vraies prisons. Ce n'est pas l'état de la psychiatrie en France va mal. Oui. En fait, on juge un état, un pays, de la façon qu'on traite ses malades. Et ces malades, surtout des malades comme ça. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, enfin, pour les familles, pour ces jeunes, pour la société, parce que de plus en plus, hein, il y a des addictions, même dans les jeux vidéo et tout ça, et qui déclenchent dans ces âges-là des pathologies qui sont irréversibles. Et c'est terrible, pour nous.
Au milieu de tout ça, le cannabis qui fait des ravages terribles et qui déclenche tout un tas de pathologies.
Complètement.
Tenez-nous au courant, Rosa, et merci pour votre appel ce soir. Et courage à vous surtout. Ne le lâchez pas, en tout cas, même si c'est fatigant. Tenez le coup encore un peu, Rosa. Hein,
vous ben oui, promettez oui, on essaye, mais... Enfin, vous voyez, l'histoire du CMP, c'est plus pour des... je sais que c'est pas encore, on ne nous a pas encore orienté vers ça, mais le CMP, c'est Centre Médico-Psychologique, c'est pour des jeunes, en fait, pour des jeunes mineurs, mais pas pour
jeunes
majeurs.
Non. Le Centre Médico-Psychologique, c'est aussi pour des gens qui sont traités pour la dépression. Il y a beaucoup de centres en France, hein, je crois qu'il y en a un... par département, il y en a plusieurs par département, et ils traitent aussi, ils font un suivi de ces jeunes adultes, hein, parce qu'on a eu plusieurs fois des appels à la Libre Antenne d'adultes, et même de 40 ans, qui étaient suivis dans ces centres, mais qui se plaignaient d'être suivis, vous voyez, une fois tous les 15 jours, voire une fois par mois, parce que ces centres étaient saturés complètement. Donc,
c'est un peu comme un hôpital de jour, en fait, ce que vous appelez le CMP.
C'est un centre qui opère un suivi et donc des consultations avec des psys.
Il y a
une équipe qui travaille et qui, dans un hôpital psychiatrique, avec les moyens du bord, alors bien évidemment. Heureusement qu'il y a ça déjà. Mais je pense
Oui, heureusement qu'il y a ça.
Je pense que Jean a raison et il faudrait vraiment que déjà vous regardiez quel est le centre qui dépend de votre habitation.
Oui. Mais en fait, ça y est, je vois ce que vous voulez dire. Mais en fait, quand il était pris en charge au niveau de sa première hospitalisation et dans le cadre, donc parce que c'était l'hôpital psychiatrique de la région, il avait en effet, il pouvait y avoir accédé à ses soins et alors, soins entre guillemets, parce qu'effectivement, c'est des consultations en fait, c'est des consultations en parallèle, effectivement, du psychiatre, avec des infirmiers psy et tout ça.
Oui, mais ça aide.
Ah oui, complètement, certainement. Mais là, il n'est pas du tout pris en charge parce qu'on s'est retourné vers une clinique. Une clinique privée dans laquelle il y a une unité psychiatrique et dans laquelle nous avons pris rendez-vous avec un des psychiatres de leur équipe. Et là, il n'y a pas de CMP là pour le. Voilà, parce que le psychiatre, en tout cas, ce qu'il nous a dit, même s'il nous a paru vraiment très professionnel, vraiment, il nous a dit vous savez, laissez-moi du temps, parce qu'il faudra du temps.
Il faudra du temps, bien évidemment. Cécile nous dit au 739-21 que malheureusement, on retrouve beaucoup de ces personnes qui ne sont pas prises en charge dans la rue. Hein. On finit par. Il finit par arriver des drames à ces personnes. Yvette. Nous dit qu'elle écoute et qu'elle s'étonne qu'aucune structure ne prenne en charge ce jeune homme afin qu'il soit soigné. Et en même temps que vous, parents, mais là, on est dans le rêve, hein, Yvette, que vous n'ayez pas le droit à une formation pour vous soulager, vous aider. Et puis, il y a un dernier message qui dit que... une adolescente est prise en charge et ça se passe bien. Ce sont des parents qui nous écrivent que leur enfant est pris en charge et que ça se passe bien. Mais il faut vraiment le vouloir et que cet enfant, même s'il a un brin de révolte, visiblement accepte d'être soigné. Donc voilà, mais ça dépend souvent de la volonté et du caractère, des contours hein, psychologiques de celui qui souffre de tout ça. Merci Rosa, en tout cas, et courage à vous et à votre mari.
Merci.
Ok.
Merci.
Et n'hésitez pas à me tenir au courant. Au revoir.
Ok, merci. Merci Olivier. Au revoir.